Vous écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h. Bonjour à tous. Ce matin, nous consacrons l'émission aux mellifères, ces plantes et arbres favorables aux insectes pollinisateurs. Je suis en compagnie de Tiphaine Pédron, chargée de mission apiculture et pollinisateur au Parc National. Bonjour Tiphaine.
Bonjour Natacha.
Et Daniele Horry, formateur et conseiller en agroforesterie pour le bureau d'études Agrouf. Bonjour Daniele.
Bonjour tout le monde.
Donc depuis 2 ans, le Parc National porte un programme en faveur des pollinisateurs. Donc l'objectif est que le territoire devienne un territoire accueillant pour tous ces insectes qui, on le sait, sont en déclin au niveau national. Il y a un volet recherche dans ce programme. 2 thèses sont en cours, l'une sur les interactions entre les abeilles sauvages et domestiques et l'autre sur les relations entre apiculture et agriculture. Et ce programme comprend également un plan d'action et l'une d'elles consiste à planter des haies mellifères. Tiphaine, à l'automne dernier, un appel à projet pour planter des haies a été lancé par l'établissement à destination des agriculteurs du parc. Pourquoi ?
Oui, effectivement, ça a été lancé en novembre, là, au 15 novembre, et l'appel à projet a été clôturé mi-février. Ce qu'on a trouvé intéressant dans ce projet, c'est que ça permet de répondre à 2 enjeux. Donc, d'une part, on répond à des problématiques agricoles, c'est-à-dire si l'agriculteur souhaite faire une barrière contre le vent, limiter l'érosion du sol, permettre à l'ombre, d'apporter un ombrage pour son troupeau, de diminuer les effets de sécheresse, de retenir l'eau, etc. Enfin, il y a beaucoup de fonctions qui vont être apportées pour l'activité agricole par ces plantations de haies. Et d'autre part, le deuxième enjeu, c'est d'augmenter la ressource en hectares et en pollen, donc d'augmenter la ressource alimentaire pour les pollinisateurs, puisque on a fait une liste d'essences d'arbres et d'arbustes qui sont intéressants sur ces critères-là.
Donc ce projet a été un succès, combien de candidatures ont été reçues et sélectionnées ?
Alors en fait, on a reçu 45 candidatures d'agriculteurs. Donc pour nous, c'est un succès, on est vraiment content qu'il y ait eu ce répondant sur le territoire. Et ce qui a été décidé, c'est d'accompagner chacun de ces candidats, donc de ne pas faire de sélection par projet, mais donc de bien réaliser des diagnostics chez chacun d'entre eux pour affiner chaque projet.
Donc les agriculteurs sont accompagnés techniquement par le parc, par le COPAGE pour la partie lozérienne du territoire et par le bureau d'études Agrouf pour la partie gardoise. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre structure, Daniele, s'il vous plaît ?
Agrouf, c'est une SCOP, une société coopérative participative qui est spécialisée en agroforesterie, qui existe depuis 2000. Et qui effectue toujours sous le de l'agroforesterie, plusieurs activités, notamment de la recherche et développement, de la formation conseil et aussi le développement de nouvelles technologies de la formation. C'est une structure qui agit pour tout ce qui est conseil, accompagnement, essentiellement de l'OGAR, pour tout ce qui est recherche à l'échelle nationale.
Très bien. Est-ce que vous accompagnez aussi des particuliers ou pas du tout ?
Oui, ça peut nous arriver. Nous travaillons essentiellement avec des agriculteurs, des chercheurs, des techniciens ou avec des structures type parc national, parc régional, bien entendu. Mais il se peut qu'on soit aussi mobilisé par des particuliers là où il y a un enjeu qui touche aussi l'activité agricole. Oui, ça peut nous arriver.
Très bien. Donc, les agriculteurs ont une liste de 23 plants au choix, financés à 100% par le parc. Ce sont des plantes locales. Quelles essences, Daniele, sont favorables aux pollinisateurs ?
Bon, il y a plus d'une vingtaine d'espèces qui ont été identifiées. Et cette liste, hein, elle risque de s'élargir un petit peu au vu des différents milieux qu'on a identifiés au cours des diagnostics de terrain. Ce sont essentiellement des espèces qui produisent du pollen, du nectar, du miella, donc plusieurs sources d'aliments ou des productions en tout cas intéressantes pour les pollinisateurs. Ça va, juste pour vous faire des exemples, hein, il y a du noisetier donc qui produit assez rapidement un démarrage de saison au mois de janvier-février du pollen, et ça c'est très intéressant justement quand on sort de l'hiver pour les pollinisateurs d'avoir cette source de protéines disponible assez rapidement, et ça peut aller jusqu'au tilleul, tilleul à grande feuille qui produit et du pollen et du nectar en phase un peu plus tardive entre juin et juillet en fonction des contextes et en fonction des écotypes. On a essayé d'identifier deux espèces intéressantes en termes de production par rapport au substrat alimentaire que je viens de citer, mais aussi qu'elles puissent avoir des floraisons à des moments déterminés de l'année où il y a besoin pour des questions de reproduction, pour des questions de développement de la colonie, si on pense à certaines abeilles, qu'elles soient sauvages ou domestiques. Voilà, il y a juste une réflexion sur la périodicité aussi de la production nectarifère et pollinifère.
Est-ce qu'il y a des arbres fruitiers également ?
Alors, il y a aussi des arbres fruitiers, tout à fait. Il y a des fruitiers... alors, il y a d'une part... Tous les fruitiers, toutes les espèces que nous avons choisies sont fruitières, dans le sens où elles produisent de fruits intéressantes pour les animaux, hein, au-delà des pollinisateurs. Je pense aussi aux oiseaux, hein, à l'avifaune en particulier. Après, effectivement, il y a des arbres fruitiers comestibles intéressants pour l'homme. Il y a le pommier, il y a le poirier, mais il y a aussi le cornouiller mâle, hein, par exemple, qui est un fruitier sauvage très intéressant. Notamment quand on fait des confitures, ça donne une note un petit peu acide et ça permet de mieux stabiliser les confitures, de les coaguler plus rapidement. Voilà, il y a le merisier aussi, hein, qui peut avoir un intérêt en termes d'arbres fruitiers. Donc des espèces qui peuvent produire des fruits intéressants pour l'homme ou qui peuvent jouer éventuellement un rôle de porte-greffe pour des variétés qui pourraient intéresser les agriculteurs qui participent au projet.
Très bien. Donc actuellement, avec Tiffaine, vous procédez à des diagnostics, hein, sur les parcelles agricoles pour savoir quelles essences planter et à quel endroit. Donc quand vous êtes sur une parcelle, qu'est-ce que vous regardez précisément ?
Eh bien, la seule chose qu'on regarde, c'est l'agriculteur, en fait, hein, le porteur du projet, le planteur. L'essentiel des éléments nous viennent de la personne avec qui on va travailler, qui va nous donner ses objectifs, qui va nous présenter aussi ses contraintes et qu'on va croiser avec les objectifs fixés par le parc. Et ensuite, sur le terrain, ben, on va regarder les conditions microclimatiques, on va regarder le sol, en fait, hein, ou les sols, la diversité, l'homogénéité, la qualité des sols. On va s'intéresser à la topographie, on va s'intéresser à la végétation existante. On s'inspire énormément de la végétation existante. La plupart des espèces, l'essentiel des espèces qui ont été choisies par le parc, sont des espèces locales. Et d'ailleurs, pour être sûr aussi du bon choix quant à la génétique, nous avons fait le choix d'utiliser des plants de la marque végétale locale. Et ça, on pourra en parler plus tard. Du coup, encore une fois, la végétation locale nous inspire beaucoup et nous donne un petit peu l'essentiel des espèces qu'on pourra planter. Lire la végétation locale, lire les plantes bioindicatrices est une façon pour investiguer de manière précise le lieu et de connaître son potentiel par rapport au choix qu'on pourrait effectuer plus en aval.
Et peut-être là, jusqu'à maintenant, les diagnostics que vous avez pu effectuer, est-ce que sur les exploitations, il y avait déjà des MLIFères ou pas du tout ? Qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à présent de ce que vous avez vu ?
Alors, pour les simples rapports, ce que j'ai pu voir, oui, ça nous est arrivé de rencontrer des sites où il y avait déjà des haies ou des fruitiers de planter. Il existe des sites que j'ai pas eu l'occasion de visiter, mais qui sont connus par le parc, où des haies ont été déjà plantées. Il y a des sites aussi où des haies n'ont pas été plantées, mais elles sont présentes. Elles sont présentes parce que tout simplement l'agriculteur a permis à ce type d'œil de se développer de manière spontanée, de manière naturelle. C'est important de le souligner. On peut planter des haies, mais on peut aussi passer par un processus de régénération naturelle assistée. Autrement dit, on fait en sorte, on crée les conditions pour qu'une haie puisse se développer tout au sol, parfois en protégeant l'espace, parfois en ajoutant par-ci par-là des espèces ou des strates, notamment des arbres, qui viendraient renforcer la haie qui est déjà en train de se constituer. Oui, c'est voilà. En tout cas, voilà, ce sont des haies qui existent et qui étaient déjà là avant qu'on passe par ce type d'initiative.
Que faut-il éviter quand on veut planter des haies mellifères?
Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ben, je dirais, même au-delà des haies mellifères, je dirais qu'il faudrait éviter toute plante exotique envahissante. Malheureusement, il existe encore des plantations qui se font en utilisant des espèces qui ont ce caractère envahissant. Ce sont des plantes qui viennent de pays lointains. Alors, et en soi, alors le fait que la plante soit exotique, c'est pas forcément grave en soi, c'est surtout son côté envahissant qui pose problème. C'est aussi le fait que cette plante pourrait occuper l'espace au détriment d'espèces locales, d'espèces végétales locales, et du coup compromettre ou déstabiliser les équilibres écologiques de nos écosystèmes. Et ça, c'est vraiment dommage. Et il y a beaucoup de vigilance en contexte agricole. Parfois, il y en a un peu moins en contexte, comme on pourrait dire, urbain ou périurbain, chez les particuliers, où on retrouve des espèces ou des variétés ornementales débordantes, envahissantes, et qui sont mal maîtrisées et qui viennent perturber aussi les milieux un peu plus naturels ou semi-naturels.
Par exemple, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets de plantes envahissantes là qui posent problème, justement?
Bon, la liste est assez longue, hein, mais...
Parmi les plus connus ou...
L'herbe de la pampe, voilà, ce sont des espèces qu'on retrouve souvent, enfin, chez les particuliers, et qui viennent ensuite, comme on le disait, au-delà du site de plantation et qui se maîtrisent. Aujourd'hui, on a quasiment plus la maîtrise sur ces espèces-là qu'on retrouve un petit peu de partout qui vont occuper ou perturber les espaces qui sont ou bien naturels ou semi-naturels et déséquilibrés avec un effet sur la faune aussi, bien entendu, notamment sur les pollinisateurs. Il faut rappeler quelque chose de très important, en fait, hein. La flore et la faune sur une région donnée ont coévolué à travers les millénaires et parfois sur des temps extrêmement longs. Toute perturbation affectant la flore vient aussi affecter la faune et parfois avec des conséquences, et même souvent avec des conséquences qui viennent aussi toucher notre vie, hein, la vie humaine. Hein. Il faut pas imaginer qu'il y ait une cloison de protection entre les espaces et les équilibres naturels et notre vie et notre qualité de vie.
Très bien. Donc après, les diagnostics vont se poursuivre jusqu'à quand sur les exploitations?
Eh bien, là, on est sur la fin, en fait. Hein. Là, avec la première semaine de avec cette semaine, on va essayer de conclure la plupart des diagnostics. L'idée, c'est d'avoir une liste d'espèces validées au plus tard pour la fin du mois de mai, qu'on puisse passer la commande chez le pépiniériste pour avoir nos plans pour l'automne-hiver prochain.
Donc Tiffaine, voilà, justement, les plantations seront effectuées à quel moment et par qui?
Il va y avoir à peu près la moitié des plantations qui vont être effectuées sur l'hiver 2021-2022 et l'autre moitié sur l'hiver 2022-2023. Donc, comme le disait Daniele, enfin, faut vraiment s'y prendre à l'avance. Hein. C'est pas, on va pas se préoccuper des livraisons et des bons de commande aux pépinières à ce moment-là. C'est vraiment là, au cours du mois de mai, qu'on va faire le bon de commande pour l'ensemble des plants et des protections. et du paillage qui va être aussi financé par le parc. Donc ça, on fait ce bon de commande aux pépinières et les livraisons auront lieu en hiver. Et en amont de ça, à l'automne, on préparera les chantiers de plantation avec les agriculteurs. Donc les plantations, elles seront réalisées par les agriculteurs. Il y a certains secteurs où on va pouvoir accompagner en organisant des chantiers collectifs, mais c'est important que les porteurs de projets soient impliqués eux-mêmes. Nous, on finance de la fourniture, donc là, je le disais, les plans, la protection du paillage. On finance de l'accompagnement technique, que ce soit individuel par le biais là, des diagnostics avec le Copage et Agrouf, et d'organisations de formation collective aussi. Mais le moment de la plantation, voilà, c'est le porteur de projet qui prend vraiment en main et qui s'investit pour lancer ce projet qui doit de toute façon se pérenniser et s'inclure dans un temps long.
Les porteurs de projet sont-ils tenus de respecter certains engagements ?
Oui, effectivement, quand on s'engage à planter une haie, il y a différents engagements. Donc à la fois, on s'engage sur du long terme. Donc là, c'est minimum hein, sur la convention, ce qui va être inscrit, c'est on s'engage à maintenir cette haie sur au moins 30 ans. Mais bon, ce qui est assez logique, hein, en fait, on se doute que une haie, elle a un intérêt quand elle peut se développer vraiment et les arbres peuvent arriver à maturité. Ensuite, un deuxième engagement qui est vraiment lié à l'aspect mellifère ou intéressant pour les pollinisateurs, que ce soit domestique ou sauvage, c'est ne pas utiliser de produits phytosanitaires dans une bande de 25 mètres de part et d'autre. Donc, en gros, ça fait 50 mètres en tout, hein. Une bande de 50 mètres autour de la haie. Parce que logiquement cette haie elle est intéressante pour attirer les insectes et donc si on y met des produits biocides ça va se transformer en piège à insectes pour cet aspect-là. Donc ça c'est un engagement important aussi. Et ensuite c'est de mettre en place les conditions favorables au bon développement de la haie. Donc au moment de la plantation, puis ensuite pendant l'entretien. En fait, ça veut dire suivre les préconisations qui sont données par les accompagnants techniques.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout il y a la mer
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait. Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une roseaux, servir à la croissance de tes marmots, servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Donc peut-être une autre actualité qui n'est pas directement en lien avec les mellifères, mais en tout cas avec les abeilles, c'est qu'actuellement une vaste opération de piégeage des frelons asiatiques est en cours donc sur les 19 communes de la Comcom des Cévennes au Mont-Lozère, en partenariat avec le parc et le groupement de défense sanitaire de l'abeille Tiffen, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. En fait, là, on a été sollicité par cette Comcom Cévennes Mont-Lozère pour animer et coordonner ce piégeage du frelon asiatique à l'échelle donc des 19 communes. Alors concrètement, ce qui se passe, c'est que le GDSA, donc c'est le groupement de défense sanitaire apicole, qui est basé lui sur à l'échelle du département de la Lozère, a commandé des pièges qu'on estime, ou avec le recul des uns et des autres, être pour l'instant des pièges des plus sélectifs en matière de piégeage du frelon asiatique. Et donc nous, on propose de faire un suivi de ces pièges. Donc les bénévoles posent leurs pièges au bon moment. Il y a une animation qui est faite par le GDSA et ensuite par le parc pour pouvoir récolter les questionnaires. Et donc, on va savoir si dans tel piège, il y a bien eu des frelons asiatiques de piégés, mais est-ce qu'il y a eu aussi d'autres espèces? Est-ce qu'il y a eu du frelon européen? Est-ce qu'il y a eu d'autres insectes? Et on aimerait bien pouvoir, du coup, à la fin de cette campagne de piégeage, savoir si c'est effectivement efficace comme piégeage, donc s'il y a effectivement des frelons asiatiques de piégés, mais est-ce que c'est aussi sélectif? Donc, est-ce qu'on ne piège pas beaucoup d'autres biodiversités en plus de ce frelon asiatique?
Comment on reconnaît un frelon asiatique d'un frelon européen?
Alors, oui, c'est vrai que c'est important de faire la différence entre les deux, puisque le frelon européen, il est là depuis très longtemps. Il a des prédateurs qui se sont développés aussi. Et en fait, il est en équilibre avec l'écosystème. Le frelon asiatique, lui, il est arrivé en Europe en 2004. En tout cas, c'est le premier qui a été repéré à ce moment-là. Et on veut le piéger, lui, spécifiquement, parce que aujourd'hui, il est développé en surnombre. Et donc, ses impacts sur la biodiversité vont être plus importants, puisqu'il a pas, il n'est pas aujourd'hui à l'équilibre au sein des écosystèmes. Donc, pour les reconnaître, le frelon asiatique, il est... Déjà, il sort... Les femelles de frelons asiatiques sortent plus tôt au printemps, au moment où elles vont aller repérer des sites pour poser leur nid. Donc elles sortent là en ce moment, alors que les femelles de frelons européens vont sortir un peu plus tard. D'où l'importance du moment où on piéger plutôt au début du printemps, voire au milieu de printemps, mais il faut s'arrêter à l'été parce qu'après on a de plus en plus de chances de piéger plus de frelons européens. Ensuite, physiquement, si on a envie de faire l'exercice, de voir si on a bien piégé la bonne cible, le frelon asiatique, il est plus sombre. En gros, le frelon européen, il ressemble à une grosse guêpe. Il a la tête et le thorax qui sont roux et l'abdomen, donc la partie arrière, qui est plus jaune et striée de noir. Et le frelon asiatique, lui, il est vraiment plus sombre, avec un abdomen qui est brun, avec un anneau orangé, et le thorax qui est brun et noir aussi. Et dans sa manière de se mouvoir, il va aussi pouvoir avoir un vol stationnaire plus long. Donc, ce qui fait, on peut l'observer, par exemple, devant des ruches, il va être presque immobile, en fait, dans son vol, à observer pour ensuite prendre ses proies. Ça, c'est au moment de l'automne qu'on peut observer ça.
Et donc, les fiches de suivi doivent vous être renvoyées à quelle date?
Alors, ça va dépendre quand est-ce qu'on décide collectivement. C'est pas le parc qui va décider quand est-ce qu'on arrête le piégeage. Ça va être avec les communes, avec le GDSA, et de se dire bon, là on voit que il y a plus de frelons asiatiques sur le territoire. Donc en gros, ça va être fin mai, mi-juin. Ça serait vraiment important de nous retourner ces fiches pour qu'on puisse avoir du recul là-dessus et voir si l'année prochaine il faut développer ça ailleurs, si ça a vraiment un sens de mener ces actions à grande échelle.
Très bien, je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Donc, merci Daniele, merci Tiffaine. Et on se retrouve très vite sur Radio Bartas pour une prochaine émission de Séquence Parc. À bientôt. Vous écoutez Séquence Parc sur 107FM et sur le site www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h.